premier dimanche de l'année, deuxième dimanche après Noël. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Pour nous, l'Épiphanie, c'est une fête qui vient un peu à la traîne après Noël. Il y a un peu la galette, mais c'est quand même un peu à la traîne après Noël. Mais autrefois, jusqu'à la fin du IVe siècle, avant justement l'introduction de cette fête de la Nativité, Noël, le 25 décembre, eh bien, l'Épiphanie, c'était la grande et unique fête chrétienne. La fête de la manifestation du Christ dans le monde, la fête de l'incarnation, la fête de la manifestation de Dieu et l'hommage qui lui était fait par la venue des mages. Dimanche 2 janvier, le temps des fêtes est bien terminé, les cadeaux sont déballés, les bougies sont éteintes. Dans nos maisons comme dans nos églises, le sapin va bientôt perdre sa place d'honneur. Les guirlandes retrouver la place du placard ou du grenier. Que de préparatifs, vraiment, que de préparatifs pour quelques heures. Nous l'avons entendu, même les mages, derniers acteurs du récit de Noël, ont fini par trouver le chemin de la crèche. Ils ont vu l'enfant, ils l'ont adoré, ils sont rentrés chez eux, dans cet Orient lointain et mystérieux. La parenthèse se referme. La vie quotidienne reprend ses droits, en nous laissant un souvenir de jours un peu suspendus hors du temps. Et c'est vrai que les lendemains de fête sont souvent un peu moroses, ils nous laissent un peu à plat. La perspective des jouissances nous avait motivés, avait mobilisé notre énergie, nous avait fait rêver, parfois nous énerver, et voilà, tout est fini. Nous nous retrouvons un peu la tête vide, moyennement enthousiastes à l'idée de reprendre le train-train, le boulot demain, de retrouver les préoccupations que les lumières des fêtes nous avaient fait mettre de côté. Et si, nous ne laissions pas la fenêtre se refermer totalement. Et si nous ne laissions pas le quotidien nous happer. Et si nous prêtions une oreille attentive à ce que l'Évangile nous montre et nous dit ce matin. Il y a là Jésus, bien sûr, Marie, Joseph, encore sous le coup des événements, étonnés, émerveillés de ce qu'on dit de leur enfant. Et puis, il y a aussi Siméon et Anne, porteurs de ces paroles prophétiques, messagers d'une totale nouveauté. Cet enfant, là, si petit, va bousculer bien des choses. Il sera l'occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe contesté. Il dévoilera les débats de bien des cœurs. Paroles imprégnées de mystère qui trouveront tout leur sens lorsque la crèche aura fait la place à la croix. Marie, Joseph, les bergers et les mages ont tous été pris dans un tourbillon d'images et d'émotions. Et ça continue lors de la présentation de Jésus au temple, avec les prophéties de Siméon et d'Anne. Imaginez-vous d'entendre des choses pareilles. C'est inimaginable. Relisons la prophétie de Siméon. Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. Et puis celle d'Anne, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Siméon parle, Anne agit. Elle ne parle pas de Jésus, elle parle aux gens de la rédemption de Jérusalem. Siméon, l'homme juste et pieux, et Anne, la prophétesse, pressentent et annoncent que ce n'est pas fini, que ce n'est pas une parenthèse dans le quotidien, mais que ce qui est arrivé là est l'amorce d'un bouleversement radical. L'histoire ne fait que commencer. Et il faut le répéter, Noël n'a rien d'un rêve, et le retour au quotidien ne signifie pas obligatoirement plonger dans la grisaille. Dans l'enfant né à Bethléem, Dieu ne fait pas une rapide apparition, mais il choisit de marcher jusqu'au bout sur les chemins rocailleux de notre terre, manifestant son projet pour nous, pour notre monde. Voilà de belles paroles. Peut-être pensez-vous que ce sont de belles paroles, car qu'est-ce qui a changé dans notre monde pendant ces 8 jours qui nous séparent de la fête? La haine, la violence, les bruits de guerre n'ont pas cédé la place à la paix. Les catastrophes naturelles, les accidents continuent à semer l'horreur et la mort. Nos soucis sont restés les mêmes. Précarité, emploi, inquiétude face à l'avenir, problèmes de santé, de famille, et puis nos églises. Nos paroisses qui cherchent difficilement leur chemin et leur place dans ce qu'on appelle la modernité. Ce sentiment, parfois, donne l'impression de se trouver devant un mur, de faire du surplace. Et c'est vrai qu'objectivement, rien n'a changé. En même temps, il y a quand même ces paroles de Siméon et d'Anne, ces paroles qui invitent vraiment à changer de regard, pour voir la réalité non plus comme une fatalité, mais comme le lieu où Dieu se donne à connaître, comme un lieu désormais habité d'une autre présence. Et là, tout change. Anne se met à célébrer Dieu, à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Ces paroles sont comme un souffle de liberté, comme un appel à aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est à chacun, à chacune de nous, qu'il revient de célébrer et d'annoncer la venue du Christ. Sa présence vivante avec nous. Oui, une lumière se lève dans et pour un autre monde, et tout peut devenir plus clair. Ne nous laissons pas abattre par la grisaille ambiante. Ne regrettons pas le temps trop court des fêtes. Le temps qui s'ouvre désormais devant nous est celui de notre témoignage, de notre engagement. Et dans cette histoire-là, nous avons un rôle à jouer. Un rôle à la mesure de nos forces et de notre vulnérabilité, de nos défauts, de nos qualités. Un rôle qui donne du sens à notre vie. Ah, bien sûr, nous ne sommes pas maîtres de l'histoire, nous ne sommes pas les rois du monde, mais ne prenons pas trop rapidement prétexte de notre soi-disant insignifiance, de notre manque de prestige ou de notre faiblesse pour rester là, les bras ballants, à attendre que quelque chose change malgré nous. Ne l'oublions pas, celui dont nous sommes appelés à témoigner est un Seigneur inattendu, qui prend la part des humbles, qui redresse ce qui était courbé, qui abaisse ce qui était élevé. Un Seigneur contesté aussi, dont le chemin passe par la souffrance et l'abandon, et dont le dernier mot se dit sur une croix et devant un tombeau vide. Un Seigneur, enfin, qui n'est pas notre propriété exclusive, mais qui s'offre à quiconque l'écoute et marche à sa suite. Témoigner inlassablement de ce Seigneur n'a rien de confortable. Cela peut ou devrait nous amener à faire entendre une voix discordante dans le consensus mou général. L'Évangile, la bonne nouvelle de ce Seigneur-là, ne se laisse pas confondre avec une quelconque idéologie. Il est la lumière qui se lève pour nous sur notre vie. Lumière qui nous met en route lorsque nous en avons assez. Lumière qui nous rassure lorsque nous doutons. Aujourd'hui, une nouvelle année s'offre à nous. Qu'allons-nous en faire? Qu'allez-vous en faire? La suite de notre histoire avec Dieu, qui est venu nous rejoindre, la poursuite de notre chemin, ou de notre arrêt, cela ne regarde que nous. Il en va de notre responsabilité. Nous sommes à présent dépositaires d'une parole, d'une espérance, pour nous et pour le monde. Allons-nous rentrer dans notre coquille comme si de rien n'était? Allons-nous prendre la route, joindre nos voix à celles de Siméon et d'Anne, et faire partager cette bonne nouvelle? La décision nous appartient. Le premier, Dieu est venu parcourir nos chemins. Et nous, nous risquerons-nous au voyage sur ces chemins? Oui, le choix nous appartient. Il est celui du sens de notre vie de croyant. Puissent ces jours de fête avoir mis en marche ensemble à la rencontre de Dieu devenu homme en Jésus le Christ. Amen. Thank you.